Chers frères et sœurs, outre le caractère assez pénible de ce texte biblique, qui présente Dieu un peu comme un revanchard finalement, qui torture le peuple lorsque celui-ci lui désobéit, la mention explicite du rite d'alliance qui a été conclu donne, c'est en tout cas le sentiment que peuvent avoir ceux qui découvrent ce texte biblique, donne un aspect pour le moins archaïque à la foi biblique et à la Bible elle-même qui, par conséquent, pourrait apparaître non seulement comme désuète, mais comme révolue d'un autre âge qui n'a plus rien à dire à notre monde aujourd'hui. Quel est ce rite d'alliance dont on parle dans ce texte? Couper un veau en deux, mettre les parties face à face et passer à travers ces morceaux qui ont été découpés. Les deux parties qui contractent l'alliance passent entre les morceaux de cet animal découpé. Comprenons bien que ce n'est pas simplement la question du respect du règne animal qui est en jeu ici. Ce n'est pas une mince affaire. Mais il y a aussi cette idée sous-jacente qui traîne, l'idée que finalement nous avons là une pratique qui relève plutôt de la pratique vaudou que de la foi évangélique. Et pour le dire clairement, ce texte et ce rite n'est pas un cas isolé dans la Bible. À vrai dire, c'est la pratique courante. C'est comme cela qu'on conclut une alliance, non seulement dans l'ancien Israël, mais à vrai dire, dans tout le Proche-Orient ancien. Et il suffirait que vous alliez jeter un coup d'œil du côté du chapitre 15 du livre de la Genèse, vous verriez qu'Abraham agit ainsi pour conclure une alliance avec Dieu. Toute une série d'animaux sont coupés en deux et nous pourrons lire qu'une sorte de fournaise représentant Dieu passe à travers les animaux découpés. Et c'est d'ailleurs ce qui donne l'expression « couper l'alliance » qui est la façon hébraïque de dire ce que nous appelons « conclure une alliance ». Couper une alliance parce que vous voyez bien que les animaux sont coupés. « Karat berit ». Alors, dans la mesure où nous avons déjà eu l'occasion d'observer la justice de Dieu telle qu'elle est envisagée par la Bible hébraïque, je ne m'étendrai pas trop dessus ce matin. Et ce qui a pu vous paraître épouvantable, c'est-à-dire ce qui va arriver à Israël parce qu'il n'a pas respecté les termes de l'Alliance, je l'évoquerai simplement en quelques mots maintenant, en rappelant qu'il est possible de comprendre le mauvais sort que subirait le peuple qui désobéit comme une punition qu'il s'inflige lui-même en ne respectant pas les termes de cette alliance. Dans le cas présent, ne pas libérer les esclaves, c'est tenir la liberté pour rien. C'est en quelque sorte considérer que la liberté n'est pas une donnée structurante de la vie sociale. Or, un peuple qui foule la liberté aux pieds est un peuple qui se condamne à devenir lui-même esclave. Quand on sacrifie la liberté de quiconque pour une autre raison, alors, un jour ou l'autre, cela se retourne contre soi. Et nous-mêmes, nous devenons finalement victime de cette privation de liberté. Entraver la liberté des membres du peuple, et le peuple ne disposera plus des forces vives qui pourraient en assurer non seulement la sécurité, mais aussi la prospérité. Le fait que Dieu soit mis en scène dans la sanction du peuple indique que le mal qui a été commis est un mal absolu. Et il en découle que les conséquences ne peuvent être que des conséquences majeures, qui ont donc un caractère ultime, et qui, c'est ce que dit ce texte, en convoquant Dieu, relève du divin. que ce qui a été commis est un acte contre une valeur essentielle du peuple, la conséquence est une conséquence qui est elle aussi ultime. J'aimerais que nous attardions plutôt sur le rite d'alliance, qui, tout archaïque qu'il puisse paraître, a sa place bien attestée dans nos Bibles, et je suis partisan de ne pas simplement caviarder les versets qui nous posent problème, mais d'en faire quelque chose et de voir le sens que ces textes peuvent avoir. Ce qui heurte peut-être notre conscience moderne, c'est la mise en scène qui est tellement éloignée de nos pratiques actuelles. Quand on veut faire alliance de nos jours, on prend un papier, on écrit les termes de l'alliance et chacun signe à la fin du contrat. Je parlais des pratiques vaudou. Avouons que ce n'est quand même pas très éloigné de ce qui est pratiqué là. Car pour une part, si l'animal est coupé en deux, c'est pour avertir les deux parties qui sont en train de passer l'alliance de ce qui leur arrivera si elles ne respectent pas les termes de l'alliance. Le rite d'alliance était le suivant. Passez entre les morceaux des animaux qui ont été découpés pour prendre conscience que si l'un de vous enfreint l'alliance, alors il finira comme cet animal. Cela est attesté dans les textes assyriens qui sont contemporains de ce texte biblique. Comprenez bien que si ces animaux ont été découpés, cela ne signifie pas qu'ils ont été sacrifiés au sens de tuer pour apaiser le courroux divin ou pour satisfaire quelques violences inhérentes à l'être humain. C'est pour signifier ce qui arriverait si vous ne respectez pas les termes qu'ils ont écrits en tout petit caractère à la fin du contrat. Une sorte de menace. Ça vous indique quel sera le programme si vous enfreignez l'alliance. Mais il convient de préciser que ce n'est pas une force surnaturelle qui se chargerait de punir le fautif. C'est une manière de dire que enfreindre l'alliance n'est pas sans conséquence. Autrement dit, et pour le dire de manière positive, respectez l'alliance et vous en retirerez des bénéfices. Si vous ne respectez pas l'alliance, vous ne retirerez pas ces bénéfices. Et donc, votre vie sera dégradée par rapport à ce qu'elle aurait pu être. C'est un élément essentiel pour bien comprendre comment fonctionne le principe de justice dans la Bible hébraïque. Ne pas respecter les termes de l'alliance, c'est se condamner soi-même à avoir une vie en sous-régime, à avoir une vie qui ne serait que l'ombre de ce qu'elle pourrait être autrement. Ne voulons pas imaginer qu'en coupant un animal, quelqu'un, quelque part, serait lui-même coupé ou pourrait en mourir. C'est une figure. Mais intéressons-nous au terme « berit » qui désigne l'alliance. Faisons un peu d'épaule, ça ne nous fera pas de mal. Comment comprendre ce terme? Je vous rappelle que la langue hébraïque date à peu près du 12e, 13e siècle avant notre ère. Elle voit le jour, donc, un peu après les épisodes qui concernent les vies de Moïse ou de Josué. Quand cette langue hébraïque vient à voir le jour, il y a déjà plusieurs langues qui existent, non seulement dans le bassin méditerranéen, mais plus spécifiquement dans le Proche-Orient ancien. Il y a notamment l'acadien, qui est la langue officielle de l'époque, celle qui réglemente tous les actes administratifs, qui est la langue diplomatique, et qui est attestée par de nombreuses tablettes qui ont été retrouvées et qui forme une bibliothèque magnifique dans laquelle nous pouvons non seulement découvrir ce qu'était le Proche-Orient ancien, mais aussi découvrir la langue. Et l'origine plausible de Berit, l'Alliance, c'est l'appel bien Biritu. Biritu, qui veut dire lien, le lien. Et on comprend ça à un lien avec l'alliance, puisque l'alliance consiste à rejoindre deux personnes qui jusque-là n'avaient pas forcément grand-chose à voir ensemble. Nous imaginons volontiers le lien qui unit les personnes qui s'engagent l'une envers l'autre. Mais l'étude des textes bibliques est aussi intéressante pour comprendre le sens que peut avoir un mot. Autrement dit, de retrouver le sens qu'a un mot en fonction des contextes dans lesquels il apparaît. Et c'est ce que fait l'immense exégète Martin Nutt en repérant que finalement, Berit désigne l'entre-deux. Non seulement Berit désigne l'entre-deux, mais il désigne l'entre-deux comme un espace qui ne serait pas rempli. C'est là que les choses sont un peu subtiles mais extrêmement intéressantes. Et pour bien le comprendre, regardons comment cela est traduit dans le grec de la Septante. L'alliance, Berit, est traduit par diatéke. Dia, c'est ce qui divise. Vous connaissez ce qui est diabolique. Le diable, c'est ce qui divise. Et ce qui est intéressant, c'est que l'alliance est traduite par diatéke, ce qui divise, et non pas par synteke, ce qui rassemble, comme le synode rassemble des chemins divers en un chemin commun. L'alliance, comprise comme diatéke, comme berit, comme entre deux, non pas remplie, mais au contraire, avec du vide. Le professeur d'Ancien Testament, Jean-Georges Heinz, propose de tenir ensemble ces deux hypothèses, l'étymologie acadienne et l'étude de Martin Nutt, en disant que la Berit est le lieu de l'entre-deux où s'installe un lien fort et durable. Cela peut sembler être un peu une subtilité de théologien qui ne sait pas trop que faire de ses journées. Cela n'est vraiment pas sans conséquence sur notre manière de comprendre la religion. Ajoutons simplement que le verbe couper, qui est accolé à cette expression, donne de l'intensité à cet entre-deux que crée l'alliance, pour bien comprendre que l'alliance n'est pas un processus de fusion, mais un processus de mise en tension. Et si l'alliance, c'est la manière hébraïque de parler de la foi, comprenons bien que la foi, ou le sentiment religieux si vous préférez, n'est pas une histoire de fusion, mais une histoire de mise en tension. Contre l'idée selon laquelle la religion se serait en quelque sorte fusionné totalement avec Dieu, les textes bibliques nous rendent attentifs que la religion biblique, celle aussi que professera le Christ Jésus, consiste à mettre de la distance entre le divin et soi. Un lien, mais un lien qui crée de la distance et de la tension. La tension, ce n'est pas de l'opposition. La tension, ce n'est pas de l'adversité. Les scouts savent que la tension, c'est ce qui permet de maintenir la toile de tente et qui évite que la pluie entre dans les sacs de couchage. Il faut de la tension entre la toile de tente et le piqué pour que la tente fasse son œuvre. Cette forme d'alliance est extrêmement intéressante parce qu'en disant qu'il y a de la distance, qu'il y a un écart, qu'il y a de la tension, cette forme d'alliance dit que chaque partenaire est considéré comme totalement libre. Mais on pourrait se dire, celui qui a la foi est dans un rapport fusionnel à Dieu. Et du coup, il n'y a aucune distance entre la parole de Dieu et l'éthique du croyant. Il n'y a aucune distance entre l'espérance de Dieu et ce que le croyant fait au jour le jour. L'alliance dit au contraire, il y a un espace, il y a de la distance. Et c'est ça qui fait que les croyants sont des êtres libres. Nous ne sommes pas des automates programmés par les textes bibliques. Les textes bibliques donnent un horizon, donnent une perspective, et le croyant va lui-même tracer le chemin qui lui permettra de se rendre vers cet horizon, de faire quelque chose de cette perspective. Ce principe d'alliance fait appel à la responsabilité de chaque partenaire. Si je le disais de manière un peu théorique, on pourrait dire que l'alliance crée un espace d'interprétation. Chaque partenaire a une sorte de feuille de route, mais c'est lui qui va trouver les moyens d'incarner cette feuille de route. On ne lui dit pas à pas ce qu'il doit faire. C'est à lui d'inventer la vie qui va avec. Mais nous pouvons même dire plus, et c'est ce que ce texte nous dit aussi. Le peuple a enfreint l'alliance. Et ce n'est pas inintéressant. Ce n'est pas qu'une mauvaise nouvelle. Parce que c'est à la condition de pouvoir enfreindre la loi que nous sommes libres de pouvoir la respecter. C'est comme le mariage. C'est ce que disait John Lincoln au XVIe siècle, lorsqu'il fit entrer la possibilité du divorce dans le droit anglais. C'est à la condition de pouvoir divorcer que je suis libre de rester marié. L'intérêt du divorce, c'est qu'il donne du sens au mariage, en fait. Bon, je crois que tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette hypothèse. Mais c'était l'argumentation de John Lincoln qui a été retenue. Là où le doute n'est pas possible, la foi n'est pas permise. Ce que disait le théologien Alexandre Vinet. Là où nous ne pouvons pas détruire la planète mille fois, nous ne sommes pas en capacité de pouvoir la créer une seule fois. Cette façon de pratiquer l'alliance, où l'infraction est possible, engage notre responsabilité, fait de nous des êtres libres et donc responsables, pouvant apporter leur contribution à la marche de la société ou du pays. Cette forme de contrat ne contraint pas. Elle ouvre une liberté qui permettra à chacun de mettre en œuvre ses propres capacités, ses propres talents. En coupant de l'entre-deux, c'est ce que fait l'alliance, elle coupe de l'entre-deux, elle met de la distance, elle crée un écart différentiel. Eh bien, l'alliance dit aussi que les différents partenaires resteront toujours à distance l'un de l'autre, comme des vis-à-vis représentés par les morceaux de l'animal coupé. L'animal coupé n'est pas simplement là pour faire peur, il est là aussi pour dire qu'il y aura toujours une distance irréductible entre les deux partenaires. Cela signifie que dans cette histoire, chacun pourra rester lui-même. Personne ne se sacrifie au profit de l'autre. Cela aussi est vrai dans le mariage, parce que nous professons que le mariage n'est pas une histoire fusionnelle. Personne n'est appelé à se sacrifier sur l'autel de la vie conjugale. Et c'est même à la condition de rester soi que la vie conjugale pourra être tout à fait intéressante. Si l'un s'efface au profit de l'autre, alors il n'y a plus de vie conjugale. Eh bien, l'alliance telle qu'elle est conclue dans les textes hébreux établit une relation, et cette relation n'a pas de caractère fusionnel, c'est une tension entre les deux partenaires. Et c'est cette tension qui est productrice de vie, et même d'un surplus de vie. Cette alliance consiste à dire qu'il peut se passer des choses entre les deux partenaires, qu'il peut y avoir des interactions. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui, à vrai dire, forge une communauté. Et pensons maintenant à nous, qui sommes là. Nous sommes venus, chacun avec notre histoire. Nous sommes venus chacun avec nos soucis. Nous sommes venus chacun avec nos compétences, avec nos aptitudes. Et nous pouvons très bien repartir tel quel, dans quelques dizaines de minutes. Aucun changement ne sera intervenu. Nous serons en quelque sorte identiques à celui que nous étions en arrivant. Mais dès lors que nous aurons, par exemple, choisi de rester pour le repas paroissial qui aura lieu juste après, des interactions vont s'établir entre les uns et les autres. Nous allons nous frotter aux uns et aux autres. Nous allons nous frotter à leurs projets. Nous allons nous frotter à leurs désirs. Nous allons nous frotter à leurs blessures. Nous allons nous frotter à leurs incompréhensions. Nous allons nous frotter à leurs sciences. Et non seulement nous ne serons plus tout à fait les mêmes, mais dans cet échange, nous aurons pu produire plus que ce que chacun aurait pu produire lui-même dans son coin. Voyez comme vous êtes assis. Ceux qui sont sur les bancs, en tout cas, sont entourés de bras qui semblent dire « c'est là votre place et vous êtes réduit à occuper cette seule place ». En plus, vous êtes affublé d'un numéro. Eh bien, je puis vous le dire, vous n'êtes pas un numéro condamné à n'occuper que cette place qui vous est dédiée ce matin. Nous pouvons faire communauté si nous considérons que notre communauté n'est pas l'addition de ce que nous sommes, mais la conjugaison de ce que nous sommes. Si nous décidons qu'il puisse y avoir des tensions entre nous, n'ayons pas peur des tensions, parce que ces tensions sont fécondes. Ces tensions sont créatrices de surplus de vie. Nous ne sommes pas 1 plus 1 plus 1 plus 1. Notre communauté est supérieure à la somme de ce que nous sommes individuellement. Pour peu que nous soyons un peu en tension les uns avec les autres. C'est ça, Vie d'Alliance. Créer de la séparation pour que nous n'ayons pas l'impression que être communauté, c'est être collés les uns aux autres dans un état statique. Être communauté, c'est de pouvoir découvrir qu'il y a de la différence entre nous, mais que cette différence doit être mélangée, qu'elle doit être éprouvée la différence de l'autre, conjuguée. Et alors, nous comprenons mieux pourquoi la Septante a traduit par diathéké plutôt que par suntéké. Pourquoi il peut y avoir de l'écart plutôt qu'un rapprochement fusionnel? Si l'un des partenaires n'est pas respecté pour ce qu'il est, si la voix d'un partenaire est étouffée, si sa liberté de mouvement, d'initiative, de décision est entravée, alors l'ensemble de la communauté en souffre, parce qu'elle ne peut plus profiter de ce que cette personne aurait apporté, de sa singularité. Et du coup, la vie de l'ensemble s'en trouve diminuée. C'est le sens de cette longue partie du texte biblique qui indique les conséquences du refus de la liberté. Mais intéressons-nous plutôt à la bénédiction que constitue cette alliance. Soyons positifs de manière résolue ce matin. Voyons à quel point le lien fondé sur l'entre-deux est une bénédiction. En considérant que l'alliance entre l'Éternel et chaque être humain a du coup un sens qui est bien plus intéressant s'il est compris à partir de cette façon de passer l'alliance, plutôt que dans une perspective un peu romantique où nous habillerions finalement en Dieu, où nous ne serions plus rien, devant nous effacer totalement en Dieu, bien au contraire. Entendons simplement quelques paroles de Jésus dans l'évangile de Jean, qui dans le grec ne se contente pas de dire « Je suis le chemin, la vérité ou la vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le berger ». En grec, il dit « Moi, je suis ». Ego, eimi, surdétermination de la personne. C'est à cela que nous sommes appelés par ce principe d'alliance. Cela signifie que la vie de chaque individu est prise au sérieux. Nous n'avons pas formé une fonction tout uniforme. Le sens de la communauté n'est pas l'uniformité. Chaque individu est pris au sérieux. Chaque individu a un caractère décisif pour la suite de l'histoire. Chaque individu est mis en relation avec l'Éternel, c'est-à-dire avec ce qui a un caractère universel. Notre vie quotidienne, personnelle, reçoit pour dignité de pouvoir se vivre devant l'Éternel. Martin Luther disait « Coram Deo ». Ce n'est pas l'Église qui est devant Dieu, c'est chaque croyant qui est devant Dieu directement. Ce que nous sommes, ce que nous essayons, ce que nous faisons, ce que nous disons, peut se confronter directement à l'Éternel. Nous sommes dignes de penser notre vie directement face à l'Éternel. Et quelle est la conséquence de cela? C'est que ce n'est pas l'Église qui est appelée à croître, ce n'est pas l'Église qui est appelée à devenir somptueuse, c'est chacune de notre existence qui est appelé à gagner en amplitude. Pour cela, l'alliance coupe ce que ne fera pas ce qui sera exactement ce que fera Jésus quand il dit « Faisons parler les pieds. Je ne suis pas venu pour renforcer le lien familial. Je ne suis pas venu pour le tout génétique. Je ne suis pas venu pour que les ADN soient conformes les uns aux autres. Je suis venu non pour la paix, mais pour l'épée. Séparer le mère de la fille, le père du fils, les frères des sœurs. Je suis venu mettre de la distance pour que chaque personne puisse mener sa propre existence sans avoir besoin de se conformer aux autres pour avoir le sentiment d'être quelqu'un. L'alliance qui nous met en tension avec l'Éternel nous permet de ne pas nous en tenir à nos propres idées, à nos propres projets, mais de nous enrichir. L'alliance est un antisectarisme. Au lieu de nous replier sur nous-mêmes, elle coupe tout ce qui pourrait être une sorte de barrière de frontière. L'alliance, c'est une bullet qui nous fait sortir de nos sectarismes. Et pour reprendre la formule des textes bibliques qui nous fait miroiter la terre promise, qui nous guide vers cette terre où une existence vécue en toute liberté nous est promise. Amen.